Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Musique.
France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. La semaine dernière, j'ai évoqué le genre du poème symphonique et j'ai passé sous silence Jean Sibelius, bien qu'il en ait composé une dizaine d'une grande beauté. C'est que j'avais dans l'idée de consacrer une semaine entière au grand homme de la musique finlandaise, d'autant qu'en France, il est encore beaucoup trop méconnu et mésestimé. Or, cette semaine, Mikko Frank, directeur musical finlandais du Philharmonique de Radio France, se lance dans une aventure qui lui tient à cœur, jouer en trois concerts l'intégrale des sept symphonies de Sibelius, que l'on connaît peut-être encore moins bien que les poèmes symphoniques. Alors bien sûr, il y a des morceaux de bravoure populaires, comme cette grande envolée lyrique de la deuxième symphonie. La deuxième de Sibelius s'est imposée par son côté romantique qui pourrait presque rappeler Tchaïkovski. Mais attention à l'arbre qui cache la forêt, elle n'est peut-être pas si représentative que cela de l'univers de Sibelius. Alors pour rappel, Jean Sibelius est né en 1865 d'un père suédophone, lui-même ne parlera finnois qu'à l'âge de 11 ans. Pourtant il va devenir un patriote, je vous rappelle que la Finlande ne sera indépendante qu'en 1917, après plus d'un siècle de rattachement à l'Empire russe. Alors dans sa première période, Sibelius sera très marqué par le Kalevala, qui est la grande épopée finlandaise, d'où ses poèmes symphoniques comme Finlandia, Lemminkainen, Ensaga, ou le grand poème épique Kullervo, avec voix et chœur. Et puis, en 1899, il se met à la symphonie pour essayer de réconcilier la narration du poème symphonique et l'architecture de la symphonie classique. Et voici sa première symphonie, dont on ne peut pas dire qu'elle commence de manière classique. Un roulement de timbales, sourd, sur lequel s'élève, comme surgit du silence, un grand solo de clarinette, très mélancolique et désolé. Ce que vous entendez là, c'est le tout début de la première symphonie de Sibelius. J'ai choisi, pour des raisons d'homogénéité, une seule intégrale pour toute la semaine. C'est celle la plus récente, d'ailleurs, de l'Orchestre Philharmonique d'Oslo, dirigé par le brillantissime Klaus Mäkelä. Ce paysage nu est représentatif de son univers mental, beaucoup plus que les épanchements romantiques. Sibelius était un grand dépressif, et les paysages nordiques, avec leurs grands espaces, ont laissé sur lui une impression profonde. Après cette introduction blafarde, commence le thème principal, alors une note longue qui enfle, et puis une figure vigoureuse, avant un thème, bon, lyrique, mais qui sera interrompu avant de se déployer pleinement. À partir de ce matériau, les choses vont beaucoup se transformer dans ce premier mouvement. Notre grand thème chantant sera régulièrement menacé. Écoutez par exemple ces dissonances des bois, très à découvert, comme souvent chez Sibelius. Et voici notre chant de violon qui tente plusieurs fois de s'imposer avant finalement d'y parvenir. Dans les histoires de la musique, on lit toujours que la première de Sibelius est proche de Tchaïkovski. Il me semble que c'est quand même un peu rapide. Dans le deuxième mouvement, l'Andante, bon, il y a bien un côté lyrique, mais écoutez comment le ciel s'obscurcit. On va avoir un vrai fourmillement, à moins que ce soit un grouillement, je vous laisse juger. On sent encore un côté épique dans cette première symphonie de Sibelius qui reste classique hein, par sa forme en quatre mouvements. Un premier mouvement très développé, un deuxième qui est un mouvement lent. Et puis, en toute logique, le troisième est un scherzo très rythmique avec un motif vigoureux de sept notes données par les timbales. Sibelius a toujours aimé les motifs concis. Vous avez dit hein, qu'on ne s'épanchait pas chez Sibelius. Et alors, qui dit symphonie en quatre mouvements dit finale. Eh bien, celui de la première symphonie commence par une reprise du thème qui était murmuré par la clarinette au tout début, sauf que cette fois, il est clamé par des cordes très plaintives et troué par des accords de cuivre assez violents. Sibelius ne pouvait pas nous laisser sur ce côté tourmenté. Il va bien finir par nous le donner, le lyrisme qu'on attendait, avec une grande mélodie qu'il fait venir de loin avant de la déployer à tous les violons. Il est déjà très attentif aux enchaînements. Ce grand lyrisme pourrait avoir quelque chose de romantique, mais dès cette première symphonie, Sibelius déjoue les attentes. Après ces grands développements, on aurait bien imaginé une conclusion en apothéose, mais ce n'est pas le cas. La symphonie propose, à la fin, une progression, mais interrompue, coupée net par deux pizzicati, c'est presque un couperet. La fin étrange, en l'air, de la première symphonie de Sibelius, Klaus Macalay, l'orchestre philharmonique d'Oslo. Avant de passer à la deuxième symphonie, il faut peut-être que je vous donne une précision sur le prénom de Sibelius, Jean, prénom français pour compositeur finlandais. Il est né Jan, à l'école on l'appelait Janne, le diminutif, mais sur une carte de visite, il a vu que son oncle avait mis le prénom Jean en français et ça lui a plu, l'essayer c'est l'adopter. Alors, la deuxième symphonie. Elle suit de peu la première, on est en 1901. Entre-temps, il a fait un séjour d'études à Berlin, puis à Vienne. Il s'est familiarisé avec la musique de Bruckner et il en a beaucoup appris, notamment pour les oppositions entre masses sonores. Alors la deuxième, encore une symphonie en quatre mouvements, de trois quarts d'heure. Après, il ira vers toujours plus de concision. La deuxième est la seule à être devenue vraiment populaire. Rien que son début est irrésistible. On a ce balancement de cordes qui monte et sur lequel vient se superposer une mélodie des bois qui débouche sur un solo de cor méditatif. Mélodie qui deviendra plus sinueuse après. Comme la première symphonie, la deuxième comporte un scherzo, jouant à nouveau sur un début très incisif, puis un vrai fourmillement qui donne une impression de mouvement perpétuel. Et ça, on en aura beaucoup chez Sibelius, des fourmillements et des mouvements perpétuels. Thank you. De sa deuxième symphonie, Sibelius nous accorde enfin l'effusion lyrique. C'est le fameux grand thème que je vous ai fait entendre en tout début d'émission, sauf que cette fois, il enchaîne pour la première fois l'avant-dernier mouvement et le final. Il va passer maître dans cet art de la transition. Écoutez comment il prépare le thème avant de finalement le laisser s'épanouir. Ce thème rayonnant en majeur, bien sûr, passera par bien des tourments avant d'arriver à une forme de réconciliation à la fin, dans une conclusion incroyablement puissante. Vous allez entendre des ascenseurs lancinants des bois, une fanfare douloureuse et surtout les timbales obsessionnelles en arrière-plan qui n'arrêtent pas de marteler avec des contrebasses et un tuba qui gronde. On pense à de la lave en fusion. La fin de la deuxième symphonie de Sibelius par Klaus Mäkelä et l'Orchestre Philharmonique d'Oslo. Elle est en majeur, bien sûr, l'optimisme est sauf. Le romantisme est encore perceptible, mais ça ne durera pas. Merci à Marie Groux qui réalise cette émission, à Nadège Antonini qui la mixe, à Soisic Noël qui en est l'attaché de production, et un clin d'œil à Marianne Spenloher en stage à France Musique. Demain, on verra la troisième et la quatrième symphonie, alors deux climats complètement opposés. Très bon début de semaine à tous, à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.